Nous sommes le 25 mai 2018 et au cours des 90 prochaines minutes, François Brodeur sera avec vous, c'est moi François Brodeur, pour animer le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Alors, le 25 mai est une date qui n'a pas beaucoup, beaucoup servi, en tout cas pas aujourd'hui.
Non, effectivement.
Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé le 25 mai?
Je commençais par 2011. Tiens, le Torontois Bob Rae devient le chef intérimaire du Parti libéral du Canada.
Et très, très intérimaire, il faut le dire.
Oui, effectivement, ça vaut la peine de le mentionner puisque ça a duré si peu de temps. 2005, 25 mai, Robert Pinkton est accusé de 12 nouveaux meurtres de prostituées en Colombie-Britannique. 25 mai 2003, les invasions barbares permettent à Denis Arcand de décrocher le prix du meilleur scénario à Cannes et à Marie-Josée Croze d'être nommée meilleure actrice au même festival. 1999, à Washington, une enquête parlementaire conclut que la Chine, pendant 20 ans, a espionné les programmes d'armement atomique. Pardon. 1995, les Nordiques de Québec sont vendus à un groupe du Colorado qui en fera l'avalanche. 25 mai 1993, le gouvernement Mulroney signe l'accord donnant aux Inuits l'autonomie de gestion sur 350 000 km². Donc, c'est la naissance du. Le Nunavut naîtra le 1er avril 1999. En 1991, toujours au 25 mai, Israël organise un pont aérien de 48 heures pour évacuer 15 000 juifs éthiopiens vers l'État hébreu. Le Congrès juif en 1986, le Congrès juif mondial cite un rapport de 1948 de la Commission des crimes de guerre de l'ONU mettant en cause Kurt Waldheim, mais jugeant les preuves insuffisantes pour le traduire en justice. 1951, pour la première fois, des troupes canadiennes se battent contre les communistes en Corée. 25 mai 1949, les communistes chinois occupent Shanghai. Le régime sera proclamé à Pékin le 1er octobre suivant. 1923, première course automobile des 24 heures du Mans. 1915, à la seconde bataille d'Ypres qui fait 105 000 morts, les Allemands lancent la première attaque au gaz toxique.
Ypres, la bataille d'Ypres. Non, je précise.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ypres, pardon. Non, mais Ypres. Ypres. Oui,
merci.
Voilà.
1914, le vapeur Berthier prend feu et coule dans le port de Montréal. En 1882, le 25 mai, fondation de la Société canadienne du Canada, dont l'objectif est de promouvoir les sciences et les arts. Et en 1615 ou en 1615, arrivée des pères Récollets, Tadoussac, décidément, j'ai de la misère aujourd'hui. J'aurais dû changer le font de ma feuille. Et pour ce qui est des naissances, nous avons Ralph Waldo Emerson, le poète et philosophe américain qui est né en 1803. Nous avons Lord Beaverbrook qui est né, ou l'éditeur anglais William Atkin, Lord Beaverbrook, qui est né en Ontario en 1879. Nous avons le poète québécois Alain Grandbois qui est né à Saint-Casimir en 1900. Et le trompettiste américain, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, Miles Davis, qui est né le 25 mai 1926. Et pour ce qui est des décès, nous avons le réalisateur et producteur britannique Ismaël Merchant, ou Merchant, et Gustav Holst, le compositeur britannique qui était né, lui, en 1874 et qui est décédé en 1934. Maintenant, je laisse la place aux professionnels. Ils sont capables de lire à voix haute. Merci beaucoup.
Merci Mathieu. Je commence immédiatement par une brève capsule météorologique. Sachez-le, cet après-midi, la température à Montréal devrait s'élever aux alentours de 27 degrés avec un ressenti à 30. Je suis tenté de vous dire profitez-en puisqu'il va pleuvoir en fin de semaine. Et je suis aussi tenté de dire à tous ceux qui trouvent que c'est trop chaud qu'il a neigé 35 cm de neige sur l'aéroport de Gander dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors si ça vous tente d'aller pelleter, si vous aimez vraiment ça, eh bien allez-y, on ne vous retient pas. We'll be right back. Bon, soyons plus sérieux et commençons avec un texte de Gabriel Bellan publié dans les pages de la presse. Trudeau ouvert à une modification de l'entente sur les tiers pays sûrs. En déplacement à la Malbaie en prévision du sommet du G7, le premier ministre a défendu l'approche de son gouvernement sur la question des demandeurs d'asile, mais il n'a pas fermé la porte à l'idée de renégocier l'entente qui encadre le passage des migrants à la frontière avec les États-Unis. Effectivement, il pourrait y avoir des changements au tiers pays sûr si on arrive là-dessus, mais ce n'est pas pour maintenant. Ce sont des conversations qui continuent, a déclaré Justin Trudeau. On sait que la question de l'immigration est délicate ou controversée aux États-Unis ces jours-ci. Mais certainement, de faire valoir le point de vue du Canada et l'importance d'avoir des ententes constructives entre le Canada et les États-Unis en matière d'immigration et de protection de nos frontières, ce serait une bonne chose, a-t-il dit, ajoutant qu'il n'y a pas, pour l'instant, de discussion formelle à ce niveau. Au début du mois, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait déclaré que des discussions très préliminaires avaient commencé entre les deux pays à propos de cette épineuse question. La sortie de Justin Trudeau hier semble aller dans ce sens. L'entente sur les tiers pays sûrs prévoit qu'un demandeur d'asile qui se présente à une douane canadienne sera renvoyé aux États-Unis. C'est pourquoi certains demandeurs d'asile entrent au pays de manière irrégulière. Le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle, en Montérégie, est ainsi devenu l'un des lieux de passage préférés des demandeurs d'asile. Si 91% des entrées irrégulières au pays se font au Québec, c'est parce qu'on a le chemin irrégulier le plus connu au monde, déplorait récemment Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, citant des données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec se sont montrés favorables dans les derniers mois à une renégociation de l'entente. Le PQ demande quant à lui qu'elle soit carrément suspendue pour s'assurer d'une meilleure répartition des demandeurs d'asile au Canada. À Plattsburgh, le chemin Roxham est même vanté dans un dépliant l'usage des demandeurs d'asile. Un feuillet d'une page qui porte le logo de l'organisme Plattsburgh Cares, qui vient en aide aux réfugiés, explique comment passer par le chemin. Selon la presse canadienne, les migrants y apprennent notamment qu'ils auront besoin d'un taxi pour se rendre au chemin Roxham, qu'ils devront emporter tout leur bagage avec eux et qu'une fois rendus au Canada, ils pourront faire une demande d'asile en vertu de la Constitution canadienne. La députée conservatrice Michelle Rempel a expliqué en entrevue avec la presse canadienne qu'Ottawa pourrait régler le problème en appliquant l'entente sur les tiers pays sûrs à l'ensemble de la frontière. Par ailleurs, le maire de Toronto s'est plaint hier du manque d'écoute de la part d'Ottawa alors que les coûts explosent pour l'accueil des demandeurs d'asile. On leur parle de manière ni plus ni moins continue, mais on n'a aucune indication d'aide, aucune zéro, a déploré John Tory hier, selon le Toronto Star. Philippe Couillard devrait-il s'inquiéter? Courte nouvelle de Maryse Tessier. Dominique Andelade souhaite devenir chef du Parti libéral du Québec, c'est son titre. L'actuelle vice-première ministre et ministre de l'Économie Dominique Andelade serait active sur le terrain afin de solliciter les appuis pour devenir la prochaine chef du Parti libéral du Québec, rapporte le 98,5 FM. Selon le chroniqueur politique Bernard Drainville, qui s'appuie sur trois sources libérales, Mme Andelade ne ferait pas dans la subtilité. Elle prend notamment part aux activités de financement et procède au recrutement de candidats en vue de la prochaine élection, en plus d'offrir des postes de ministre à des députés. Selon M. Drainville, Philippe Couillard serait au courant des démarches de Mme Andelade et ne ferait rien pour l'arrêter. La relation entre l'extrême droite québécoise et les médias fait l'objet de deux textes aujourd'hui. Je commence avec celui de Gabriel Bellan. YouTube payant pour l'extrême droite. Lundi soir, le YouTuber québécois Jean-François Gariépy s'attaquait sur sa chaîne à un sujet délicat, l'influence juive en Amérique. Gariépy, défenseur du concept de race et favorable à la création d'États ethniques, est l'une des voix montantes de la droite identitaire sur YouTube. Il compte 40 000 abonnés à sa chaîne et ce nombre grandit chaque jour. Pendant trois heures, Gariépy, 34 ans, et son invité ont détaillé ce qu'ils estiment être les réseaux d'influence juifs aux États-Unis. Les internautes qui suivaient la conversation pouvaient la commenter en direct. Les messages défilaient à toute allure au côté de l'écran, mais certains restaient en évidence beaucoup plus longtemps. C'était des super chats, introduits par YouTube en janvier 2017 pour permettre aux créateurs et à l'entreprise de faire plus d'argent. Le concept est simple. En échange de quelques dollars, l'auteur peut publier un commentaire qui restera visible pendant une période de temps proportionnelle au montant de son don. Lundi soir, la plupart des super chats respectaient le code de conduite de YouTube, mais certains dépassaient clairement les bornes. Un internaute a ainsi offert 10 $ à Gary Epi pour mettre en évidence son commentaire à propos des Juifs. On coupe la tête du serpent et les Noirs vont tomber facilement. Et oui, ça s'est publié sur Internet. Le commentaire est resté en évidence plus de 3 minutes. À noter que la triple parenthèse est utilisée sur l'Internet par des antisémites pour désigner une personne comme juive. Le même internaute a donné un peu plus tard encore 10 $ au YouTuber et cette fois-ci pour faire un tweet carrément hitlérien. C'est assez inquiétant. Encore une fois, le commentaire est resté à la vue de tous pendant plus de 3 minutes. Il suffisait à un spectateur de cliquer dessus pour le lire, tandis que les commentaires de ceux qui n'avaient pas payé disparaissaient. En tout, lundi soir, selon nos calculs, Jean-François Gariepi a empoché près de 400 $ en dons pour sa discussion sur les Juifs. Début mai, quand il a reçu Richard Spencer, l'une des figures les plus connues du suprémacisme blanc, Gariepi a touché près de 800 $ de dons en superchats. Ces sommes ne vont pas directement dans les poches des créateurs YouTube, engrange une partie des recettes. Selon plusieurs YouTubers, l'entreprise qui appartient à Google garde 30% des revenus de Super Chat. Ce qui signifie que le commentaire néo-nazi de lundi soir sur la chaîne de Gary Epi, 10 $ pour écrire, donc, aurait rapporté 3 $ à YouTube, tout comme le commentaire sur les serpents et les noirs. La chaîne de Gary Epi n'est bien entendu pas la seule où des propos haineux ont été mis en évidence par le système Super Chat. Certains YouTubers de l'alt-right, encore plus populaires, amassent en une seule vidéo des milliers de dollars par l'entremise de super chats et des dérapages sont monnaie courante. La ville de Montréal manque d'argent. Et là, je ne parle pas de ses budgets, quoique ça pourrait être le cas aussi. Non, je parle d'argent liquide, puisque sachez-le, les Montréalais payent de plus en plus en ligne et de moins en moins par chèque et par devise, ce qui fait en sorte que la ville doit affronter des frais bancaires qui explosent. Pierre-André Normandin nous rapporte que les frais bancaires de la ville de Montréal grimpent en flèche. C'est d'ailleurs son titre. Encaisser les taxes et les revenus de constat d'infraction, faire les paiements auprès des fournisseurs ou encore la paye des employés, la Ville de Montréal doit recourir à une institution bancaire pour gérer l'ensemble de ses transactions. L'administration Plante vient ainsi d'accorder un contrat sur 5 ans de 17,3 millions à la Fédération des caisses Desjardins afin de gérer les services bancaires de Montréal. En ajoutant l'enveloppe de 3,5 millions en imprévu, soit 20% de la valeur du contrat, la facture en frais bancaires devrait ainsi s'élever à 4,1 millions par an. Cette somme est nettement plus élevée que l'ancien contrat accordé en 2009. À l'époque, l'administration Tremblay avait donné un mandat de 10 ans des Jardins pour 17,7 millions. On avait toutefois ajouté une enveloppe de 5,3 millions, soit 30% pour couvrir les imprévus. Et voilà, alors que le contrat devait prendre fin en août 2019, la Ville a récemment constaté qu'elle allait devoir dépenser la totalité de ses 23,1 millions en juin, soit 14 mois avant la fin de l'entente. Montréal explique cette augmentation rapide des coûts pour ses services bancaires par la popularité croissante des paiements électroniques et par carte de débit et de crédit. Depuis les dernières années, l'évolution dans les modes de paiement fait en sorte que les contribuables délaissent les modes traditionnels de paiement par chèque et au comptant, au profit des paiements par carte et en ligne, indique un document remis aux élus. « Une dernière nouvelle de la presse, puisqu'on a le temps. Grégory Katz et Renata Brito rapportent que c'est aujourd'hui que les Irlandais doivent décider s'ils rappellent ou pas le 8e amendement de leur Constitution, amendement qui impose au gouvernement de respecter autant la vie de la mère que celle de l'enfant à naître. Bref, amendement qui encadre très, très sévèrement l'avortement dans la République irlandaise. Voilà qui termine pour le Journal de Montréal. Restez avec nous, on aborde le devoir immédiatement après cette pause.
Je te dis qu'elle a l'air bonne ta gomme, mais je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Elle emmène tout un train d'allant, la reine de ton père, les sucrés, sa majesté. Des choses à quoi se pose qui a des ranges, comme parler. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. T'as les yeux dans un trou quand une balloune tombait sur le nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre. Merveille masquée. Te partage mon vieux cœur de pomme, si tu me laisses un bout de ton trésor sucré. Si c'est pas une aubaine, c'est tout. Moi je pourrais t'aider à épargner vos dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne.
Des fois, il faut se faire plaisir quand on est metteur en onde. Alors, c'était Fred Fortin, La Merveille masquée.
Nous voici donc rendus à traiter les textes du devoir et je vous avais promis un second texte traitant des relations difficiles entre l'extrême droite et les médias. On commence tout de suite. Un texte de Carl Rettino Paradzelli. Couillard et Trudeau condamnent l'incident survenu à Vice. Un texte qui a été écrit avec Isabelle Porter et la presse canadienne. Les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau ont tour à tour dénoncé jeudi l'action menée la veille dans les bureaux montréalais de Vice par le groupe associé à l'extrême droite Atalante. On doit condamner ces actions qui sont de l'intimidation, c'est clair, particulièrement envers un média, a affirmé M. Couillard lors d'un point de presse alors qu'il participait jeudi à la conférence C2 Montréal. Ce que ces gens-là ont fait, c'est brimer la liberté d'expression des journalistes et des gens qui travaillent dans ce média-là, a-t-il ajouté. La liberté d'expression comprend le droit de dire n'importe quoi, et parfois même des bêtises. Mais on a le droit et le devoir de répondre à ces bêtises et de faire en sorte que ça se fasse dans le respect des droits de chacun. Le premier ministre Trudeau a lui aussi dénoncé l'incident en le qualifiant d'inquiétant. Une presse libre et indépendante, confiante et protégée, est au cœur de toute démocratie, a-t-il plaidé, alors qu'il se trouvait à la Malbaie où se déroulera le sommet du G7 les 8 et 9 juin. M. Trudeau s'est dit inquiet de la polarisation du débat, qu'elle soit provoquée par la montée de groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, pour sa part a adressé une lettre au ministre de la Sécurité publique, Martin Couetteux, lui demandant un plan pour endiguer la montée de l'extrême droite violente au Québec. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à l'intimidation de journalistes en pleine salle de presse. Cette situation devrait vous interpeller au plus haut point, a-t-il écrit. C'est déplorable de voir de tels agissements de la part de groupes qui s'attaquent de façon facile à des journalistes, a indiqué le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault. Au Parti québécois, le député Stéphane Bergeron a parlé d'un geste d'intimidation inadmissible. Mercredi, vers 16h, 6 membres du groupe Atalante, pour la plupart masqués, ont fait irruption dans les bureaux du média montréalais Vice. Ils ont lancé des tracts et des nitlounes avant d'enguirlander le journaliste Simon Coutu, selon les dires du rédacteur en chef de Vice Québec, Philippe Goyer. Le coup d'éclat est survenu à la suite de l'apparition la semaine dernière d'un article signé par M. Coutu intitulé « L'extrême droite et les antifas se promettent un été mouvementé » dans lequel on explique que les groupes identitaires québécois, dont Atalante, s'affichent de plus en plus ouvertement à Montréal. Clairement, ces racoleurs professionnels sans scrupules cherchent à attiser un climat dangereux, voire provoquer une guerre ouverte et souhaitent sans doute récolter les victimes collatérales qui leur serviront ensuite de capital pour un prochain article, a fait valoir le groupe Atalante Québec sur sa page Facebook à la suite de son incursion dans les bureaux du Média montréalais. Nouvelle inquiétante en provenance de la Commission scolaire de Montréal, le titre... La CSDM ferme des classes spécialisées pour enfants ayant de graves difficultés d'apprentissage. 6 classes spécialisées pour des élèves ayant les plus grandes difficultés doivent fermer leurs portes à la fin de l'année scolaire. Ces 90 enfants qui ont un retard d'au moins 2 ans sur le programme seront intégrés dans des classes ordinaires de la Commission scolaire de Montréal. Selon ce qu'a appris Le Devoir, la plus grande commission scolaire du Québec estime que ces élèves ayant des difficultés graves d'apprentissage, des DGA dans le jargon, seront mieux servis dans des écoles ordinaires avec le soutien d'orthopédagogues que dans des classes spécialisées. Le syndicat des enseignants de la CSDM dénonce cette décision qui viendra alourdir la tâche des professeurs dans les classes ordinaires. L'explosion du nombre d'élèves en difficulté dans les classes ordinaires nuit à la fois aux élèves et aux enseignants, estime le syndicat. Ces 6 classes DGA, 5 au primaire et 1 au secondaire, sont abolies parce que la demande baisse pour ce type de service spécialisé, explique au Devoir Catherine Harel-Bourdon, présidente de la CSDM. À l'inverse, la demande augmente pour des services aux élèves ayant un trouble de langage ou d'autisme. La commission scolaire prévoit ainsi de créer 19 classes spécialisées pour répondre aux besoins de ces élèves handicapés. Les élèves sont envoyés dans des classes spécialisées par un comité formé des parents de l'enfant, de membres du personnel de l'école et d'un conseiller pédagogique en adaptation scolaire. Et ces comités ont tendance à recommander l'intégration en classe ordinaire des élèves ayant de graves difficultés, indique Mme Harel-Bourdon. L'inclusion, dans certains cas, ça fonctionne super bien. On constate que les équipes écoles travaillent beaucoup mieux dans le soutien de ces enfants-là en classe ordinaire avec des orthopédagogues en classe. C'est au-delà de nos espérances, dit la présidente de la CSDM. Dans les derniers mois, le barreau du Québec et le barreau de Montréal ont introduit un recours devant la Cour supérieure pour faire invalider toutes les lois québécoises depuis déjà beaucoup d'années, en invoquant que le processus législatif de traduction était insatisfaisant, c'est-à-dire que les versions n'étaient pas disponibles en anglais et en français à toutes les étapes. Ça a soulevé beaucoup de grogne au sein de l'ordre professionnel qui a appelé une assemblée générale. Voici le résultat tel que rapporté par Guillaume Bourgault-Côté. Bilinguisme, les membres du barreau disent non au recours. S'il n'en tenait qu'à ses membres, le barreau du Québec devrait se retirer du recours intenté pour faire déclarer inconstitutionnel le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale. C'est le message qu'ont envoyé jeudi soir les avocats réunis en Assemblée générale extraordinaire. Ceux-ci devaient se prononcer sur des propositions émanant d'un groupe d'avocats opposés à la démarche lancée par le barreau à la mi-avril. Les protestataires demandaient le désistement du barreau de sa demande en justice et aussi qu'il s'abstienne d'introduire tout recours ayant une incidence politique sans préalablement avoir obtenu l'aval de la majorité de ses membres. Signe de l'intérêt soulevé par la question, 745 membres ont participé à l'Assemblée qui a duré près de 3 heures. Et signe que cette même question divise, la proposition demandant au barreau de se désister du recours a été adoptée à 52 %. La proposition concernant les recours à incidence politique a, pour sa part, été battue de peu. Le vote n'étant pas contraignant, il faudra maintenant voir l'interprétation que le barreau en fera. Le conseil d'administration se réunira sous peu pour discuter de la question. En fin de soirée jeudi, le bâtonnier Paul-Mathieu Grondin a indiqué que l'idée n'est pas d'avoir des gagnants ou des perdants. Il s'agissait d'un échange d'idées et je trouve stimulant le fait que nous ayons eu des débats respectueux. La proposition au cœur du débat a été adoptée et je crois que c'est une décision dont le conseil d'administration doit prendre acte, a soutenu en entretien l'avocat Mathieu Hébert, qui avait pris position publiquement contre l'initiative du barreau. On ne s'illusionne toutefois pas là-dessus dans la mesure où c'est non contraignant. Dans l'autre cas, l'avocate Kirsten A. Petitler, qui avait elle aussi témoigné publiquement de son avis sur la question, se disait pour sa part évidemment déçue du résultat demandant au barreau de se désister. « Pour moi, c'était une question de droit pur et non pas de politique. Le barreau avait la compétence et le devoir d'agir. Le problème n'est pas résolu ce soir. » Et voilà qui termine pour le devoir. On fait une courte pause et on se retrouve avec le Journal de Montréal.
La danse a compliqué ses pas. Un vent jaloux est monté en moi. Faute à tes yeux, faute à mon cœur. Si je suis fou de ta lueur, le destin avait les yeux bleus clairs. Sous un soleil incandescent, on s'est égaré dans le vent. Le vent. chemin était clair. Sous un soleil incandescent, tu m'as dit que c'était le temps. Notre destin est né les yeux bleus clairs. Notre destin est né les yeux bleus clairs. Et son sourire incandescent est un soleil éblouissant. Le destin avait les yeux bleus clairs.
C'était Dumas et sa chanson Bleu clair.
Journal de Montréal, donc, où l'agence QMI fait le point sur ce qui est quand même la nouvelle tragique du jour. Je vous donne le titre immédiatement. Deux suspects recherchés après une explosion dans un restaurant à Mississauga, au moins 15 blessés. Une quinzaine de personnes ont été blessées lors d'une explosion survenue jeudi soir dans un restaurant de Mississauga en Ontario. La police de Peel, qui est à la recherche de deux suspects, a indiqué vendredi matin que rien n'indique pour le moment qu'il s'agisse d'un acte terroriste. La déflagration aurait été entendue aux alentours de 22h30 dans le restaurant indien Mumbai Bell, a rapporté le Toronto Star. Les services d'urgence ont été appelés près de l'intersection entre la rue Huron-Ontario et l'avenue Eglinton. Une quinzaine de personnes ont été blessées, ont indiqué les ambulanciers aux médias ontariens. Trois des victimes sont dans un état critique, a précisé la police de Peel. Et on apprenait un peu plus tôt aujourd'hui que ces trois victimes sont maintenant dans un état grave, mais stable. En début de nuit, les autorités ont publié sur Twitter une photo d'une caméra de surveillance sur laquelle on voit deux suspects vêtus de noir et les visages cachés par un tissu noir. Selon la police, les deux individus seraient entrés dans le restaurant et auraient actionné un engin explosif improvisé avant de prendre la fuite. Le premier suspect mesure entre 5 pieds 10 et 6 pieds et aurait une vingtaine d'années. Le second mesurerait entre 5 pieds 9 et 5 pieds 10. Son âge n'a pas pu être déterminé. C'est hier, en fait, que Nicolas Maduro, président réélu au terme d'un processus quand même discutable au Venezuela, prêtait serment. Donc, l'AFP signe un texte « Venezuela, Nicolas Maduro prête serment et accuse les États-Unis de conspiration ». Le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a prêté serment dès jeudi à la suite de sa réélection dimanche, a accusé les États-Unis d'avoir orchestré une conspiration contre son pays pour laquelle plusieurs militaires vénézuéliens ont été arrêtés. Après la prestation de serment devant l'Assemblée constituante, uniquement composée de ses partisans, M. Maduro s'est rendu au ministère de la Défense où il a reçu de l'armée son soutien le plus crucial, une réaffirmation de loyauté. Pendant cette deuxième cérémonie, Nicolas Maduro a annoncé l'arrestation d'un groupe de militaires accusés de conspiration. Ces soldats, dont on ne connaît ni le rang ni le nombre, auraient mené une conspiration sous les ordres des États-Unis et de la Colombie afin que les élections de dimanche soient suspendues, a affirmé le chef de l'État socialiste. Selon M. Maduro, les suspects ont avoué s'être vendus à des traîtres qui, depuis la Colombie, les ont payés en dollars pour qu'ils trahissent l'honneur, la morale et la loyauté de nos forces armées. Si le président de 55 ans au pouvoir depuis 2013 a prêté serment ce jeudi, il ne commencera son second mandat de 6 ans que le 10 janvier. « Je jure devant le pouvoir de l'Assemblée constituante toute-puissante, devant la Constitution, devant le peuple du Venezuela, de respecter et de faire respecter la Constitution et mener tous les changements révolutionnaires », a déclaré le président. M. Maduro a assuré que ces changements mèneraient le Venezuela à la paix, à la prospérité et au bonheur. Le pays pétrolier, autrefois le plus riche d'Amérique latine, est plongé dans une crise économique historique, se débattant entre hyperinflation, attendue aux alentours de 13 800% cette année par le Fonds monétaire international, et grave pénurie d'aliments et de médicaments. Malgré ce paysage de désolation et la forte impopularité qui en découle, Nicolas Maduro a été réélu dimanche avec 68 % des voix contre 21,2 % pour son principal adversaire, Henri Falcón. Le scrutin, boycotté par l'opposition qui y voyait une supercherie, a immédiatement été dénoncé par une grande partie de la communauté internationale, dont le groupe de Lima, alliance de 14 pays du continent américain, qui ont retiré dès lundi leurs ambassadeurs à Caracas. La prestation de serment de jeudi est un autre chapitre de la farce avec laquelle on a tenté de retirer aux Vénézuéliens leur droit d'élire un nouveau président, a dénoncé jeudi la coalition d'opposition, la plateforme de l'unité démocratique, dans un communiqué. L'Union européenne a critiqué des irrégularités et le ton est vite monté avec les États-Unis, cible traditionnelle du gouvernement chaviste. M. Maduro a ordonné l'expulsion des deux plus hauts représentants diplomatiques américains dans son pays. Washington a répliqué en ordonnant mercredi l'expulsion de deux diplomates vénézuéliens sous 48 heures. Toujours en provenance de l'agence France-Presse et reproduit dans le Journal de Montréal, Pyongyang dit être toujours prêt au dialogue avec Washington malgré l'annulation du sommet. La Corée du Nord a affirmé vendredi qu'elle était toujours prête à dialoguer avec Washington à tout moment malgré l'annulation par Donald Trump du sommet prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, un revirement qui plonge une nouvelle fois la péninsule coréenne dans l'incertitude. L'annulation du sommet Kim-Trump, annoncé jeudi par le président américain qui l'a justifié en évoquant l'hostilité de Pyongyang, est extrêmement regrettable, a déclaré Kim Ki-gwan, le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen, dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA. Nous réitérons aux États-Unis notre détermination à nous asseoir face à face à tout moment et de quelque manière que ce soit pour résoudre le problème, a ajouté ce responsable, soulignant que l'annonce abrupte de l'annulation de la rencontre par M. Trump était inattendue. C'est par un courrier d'une vingtaine de lignes adressé à Kim Jong-un que le 45e président des États-Unis, a fait part de sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin qui s'annonçait historique et dont il avait lui-même accepté le principe début mars à la stupéfaction générale. « J'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre », indique M. Trump dans ce texte rendu public le jour même où Pyongyang annonçait le démantèlement de son site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Nombre de dirigeants étrangers ont exprimé leur déception, au premier rang desquels le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a évoqué une tournure des événements profondément regrettable. Pascal Dugas-Bourdon nous rapporte que la gratuité scolaire, c'est peut-être le projet de certains députés, mais certainement pas celui de Philippe Couillard. Proposition d'une candidate libérale, Couillard se distancie de la gratuité scolaire. Le premier ministre Philippe Couillard prend ses distances de la gratuité scolaire quelques 24 heures après qu'une de ses candidates vedettes eût indiqué sa volonté d'en faire la promotion au sein du caucus libéral. « Je pense que c'est une ambition à long terme. C'est exactement comme ça qu'elle l'a placée », a minimisé M. Couillard lors d'une mêlée de presse jeudi à Montréal. Mercredi, la candidate libérale dans Saint-Laurent, Marois Risky, a dit à l'agence QMI avoir l'intention de convaincre le caucus libéral d'adopter la gratuité scolaire advenant son élection. « Moi, j'ai toujours cru à la gratuité scolaire. Évidemment, je me joins à un parti politique et je vais devoir défendre mes idées au sein du caucus », a dit celle qui se présente dans un château fort libéral. Or, jeudi, le premier ministre a préféré vanter son bilan en éducation plutôt que la proposition de sa nouvelle recrue. On fait beaucoup d'efforts d'abord pour la gratuité réelle au niveau primaire et secondaire, a d'abord indiqué M. Couillard. Au niveau de l'université, comme vous le savez, depuis le printemps érable de 2012, on a une politique qui fait en sorte que les droits de scolarité au Québec sont les plus bas en Amérique du Nord et sont maintenus les plus bas à cause de la politique d'indexation, a-t-il poursuivi. Questionné sur les ambitions et positions de ses nouveaux candidats, dont Mme Risky, ainsi que celle du président de la campagne libérale, l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, M. Couillard a dit adorer que des gens forts se joignent à son parti. « Moi, j'aime être entouré de gens forts. Les leaders forts s'entourent de gens forts. Les leaders faibles s'entourent de gens faibles », a-t-il expliqué. « Moi, je suis très content d'avoir autour de moi des gens qui ont de l'ambition, qui veulent pousser leurs idées. On est un groupe politique. On en discute entre nous. On a un consensus là-dessus qui doit s'établir », a-t-il ajouté. Un avis que ne partage pas le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. Il y a un président de campagne qui est contre le troisième lien, qui est pour le salaire minimum à, le minimum à 15 $, une candidate qui est pour la gratuité universitaire. J'espère qu'à un moment donné, Philippe Couillard va mettre de l'ordre dans tout ça, s'est-il permis de dire lors d'une mêlée de presse.
Jusqu'à demain matin, si ensuite tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas perdu espoir. Redis-moi de ces choses qu'on veut dire que dans le noir. S'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Et tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. Je garde ton secret en silence sous mes draps. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés.
Fermez une chanson de Dilarama.
Nouvelle régionale et on commence tout de suite en vous parlant de Québec. Québec dont l'image sera à tout jamais changée d'ici quelques années puisque Jean-Michel Genois-Gagnon nous apprend dans Le Soleil que le projet Un phare retravaillé verra le jour, et c'est son titre. Le groupe Dallaire a obtenu au cours des derniers jours le feu vert de la commission d'urbanisme de la ville pour la réalisation de son complexe immobilier Le Phare, dont la tour principale sera de 65 étages, a pris le soleil. C'est le promoteur du projet, Michel Dallaire, qui a confirmé l'information lors d'un entretien. Il a confié que durant l'hiver, plusieurs nouveaux plans ont été présentés à la commission afin d'obtenir un avis favorable. Le projet a évolué depuis la dernière mouture dévoilée en 2016, avance-t-il. Nous avons entre autres travaillé sur les façades de l'édifice. Un ajout important a été réalisé. Des balcons ont été insérés aux unités résidentielles, condos et logements de ce qui sera le plus haut gratte-ciel canadien à l'est de Toronto. Il y en aura jusqu'au 65e étage. Nous avons retravaillé le visuel pour les intégrer. Nous avons aussi retravaillé les autres tours, le positionnement de la salle de spectacle et les entrées, énumère M. Dallaire. Si tout se déroule selon les plans du grand patron, le début des travaux pour ce chantier de 650 millions devrait avoir lieu à l'hiver 2019. Il prévoit toujours la construction de 4 tours, dont 3 entre 15 et 45 étages, d'une place publique et d'une salle de concert. Le nombre de sièges a toutefois bondi. De 750, la direction envisage maintenant d'avoir jusqu'à 1200 places. À titre de comparaison, la salle Albert Rousseau en compte 1348. Un centre d'observation et d'interprétation de la région de Québec est toujours prévu au dernier étage. Les travaux devraient s'échelonner sur une période de 10 ans. Le complexe aura des accès par la rue des Châtelets, sur l'avenue Lavigerie, qui sera élargie, et sur le boulevard Laurier. Mais avant de pouvoir assister à la première pelletée de terre, le méga développement immobilier devra passer par les consultations publiques. Au début du mois de mai, le maire de Québec, Régis Labeaume, a indiqué lors d'un point de presse que cela devrait avoir lieu d'ici l'été. Nouvelle particulièrement choquante et qui est apparue dans plusieurs médias au Québec. J'ai choisi pour en parler le texte de David Rémillard du Soleil également. 40 aînés expulsés de chez eux à 48 heures d'avis. Une quarantaine d'aînés âgés de 87 à 98 ans sont forcés de déménager d'ici vendredi 16 heures après que le propriétaire de leur résidence située à Valley Junction, en Beauce, eut décidé mercredi de mettre la clé sous la porte. Un maigre 48 heures d'avis pour trouver une nouvelle adresse. Le propriétaire des résidences de la Vallée, Ghislain Carrier, a pris sa décision mercredi matin sans prévenir. On a eu une rencontre mercredi matin avec le CISSS de la Chaudière-Appalaches et il a décidé qu'il fermait, a expliqué Caroline Audet, directrice générale de la résidence, la seule de Valley Junction. Une rencontre a eu lieu plus tard, le même jour, avec les familles concernées. Une cellule de crise a été mise en place au CISSS de la Chaudière-Appalaches afin de relocaliser ses résidents. Jeudi soir, un nouveau toit avait été trouvé pour 32 d'entre eux, selon Mme Audet. Un autre pensionnaire est actuellement hospitalisé, ce qui veut dire que 7 personnes étaient toujours en attente d'un logis. Le maire de Valley Junction, Réal Bisson, n'était pas impressionné par la décision de Ghislain Carrier, d'autant plus que les deux hommes s'étaient parlé à plusieurs reprises ces derniers jours. Joint par Le Soleil, M. Bisson a expliqué que le propriétaire était en difficulté financière et qu'il souhaitait vendre la résidence. « Je l'ai mis en contact avec des acheteurs pour faire reprendre la résidence », a relaté le maire. On s'était donné la semaine. Mais M. Carrier a visiblement manqué de patience. Il n'a pas avisé le maire et a pris la décision de fermer de son propre chef. M. Bisson l'a appris d'une famille touchée par l'expulsion. « Tant qu'à moi, ça a été fait prématurément et ça a été mal fait », a-t-il déploré. « C'est un choc pour les personnes qui sont là et pour les familles ». La municipalité demeure active dans le dossier et tente toujours de trouver un acheteur. La résidence accueille plusieurs natifs de Valley Junction, a fait valoir le maire. On y tient. On ne veut pas que ça ferme. La municipalité offre même une aide financière pour le prochain acquéreur. Le bâtiment est évalué à 1,2 million. Une autre raison évoquée pour expliquer la fermeture est le manque de personnel. Selon la directrice Caroline Audet, la résidence privée subissait une pénurie de main-d'œuvre depuis le mois de novembre. Le gestionnaire peinait, a-t-elle insisté, à recruter des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires. « On se déplace à Sherbrooke où la Tribune nous fait état de ce qui est peut-être révélateur d'une époque, mais aussi d'une mentalité inquiétante. C'est Julie Lupien qui signe le texte intitulé « Exercice de confinement barricadé, des parents inquiets à Richmond ». Et qu'est-ce qu'un exercice de confinement barricadé, me demanderez-vous? Eh bien oui, c'est ce qu'on craignait. Un groupe de parents dont les enfants fréquentent l'école primaire du plein cœur de Richmond, se mobilise. Les exercices de confinement barricadé inquiètent un groupe de parents dont les enfants fréquentent l'école primaire du plein cœur à Richmond. Le manque d'informations concernant cette façon de faire afin de préparer les enfants à d'éventuelles attaques armées dans l'établissement scolaire amène ce groupe à vouloir créer un comité de réflexion. Selon eux, d'autres méthodes devraient être considérées. Les parents, pour une approche non violente à l'école, avancent que la meilleure lutte à la violence se fait par l'éducation, la confiance, le pacifisme et la solidarité, et non pas par l'acceptation que la violence est une fatalité. Sans donner sur les impacts que peuvent causer ces exercices chez les jeunes enfants du primaire, le groupe doute de la nécessité de les tenir. Dans une pétition ayant recueilli 72 signatures, les parents indiquaient que les exercices de confinement barricadés seraient susceptibles de créer de l'anxiété chez les enfants du primaire, instaurer un climat de peur et de danger, alors que la réalité canadienne présente un très faible niveau de risque en milieu primaire, ainsi qu'influencer la compréhension du monde chez l'enfant. De son côté, la direction de la commission scolaire des sommets ne désire en aucun cas provoquer de l'anxiété chez les jeunes élèves et n'oblige pas les établissements à tenir des exercices de confinement barricadé. Comme le ministère de l'Éducation et celui de la Sécurité publique le font avec les commissions scolaires, nous proposons de pratiquer ces exercices. Nous ne les imposons pas. La majorité des écoles de la commission scolaire des sommets réalisent les exercices avec le personnel de l'école. Les établissements décèdent ensuite du moment opportun pour y intégrer les élèves, précise Édith Pelletier, directrice générale de la commission scolaire des sommets. À l'école du plein cœur, deux exercices de confinement barricadé prévus à l'horaire ont été annulés. Le protecteur de l'élève les a fait suspendre grâce, d'une part, à notre mobilisation et parce que la décision de les tenir ou non aurait dû être votée en conseil d'établissement, ce qui n'a pas été fait, explique le groupe des parents. Inquiétant, n'est-ce pas? À Trois-Rivières, une nouvelle, celle-là, carrément déprimante. Un bébé de 3 semaines violenté, c'est Nancy Massicotte qui en parle dans le Nouvelliste. Un autre présumé cas de bébé violenté a été dévoilé jeudi au palais de justice de Trois-Rivières avec la comparution de Simon Rousseau, 21 ans. L'individu a été formellement accusé de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions corporelles. Selon ce qu'on peut apprendre dans la dénonciation autorisée contre lui par la procureure de la Couronne, maître Catherine Roberge, la présumée victime n'avait que 3 semaines. Les événements survenus le 23 janvier dernier à Trois-Rivières. Rousseau aurait brassé l'enfant au point de lui infliger une fracture de l'humérus et des lésions avec saignement au cerveau qui s'apparentent à celles d'un bébé secoué. C'est la mère qui aurait alerté les policiers pour signaler les blessures au visage de son enfant. Rousseau doit aussi répondre à une accusation de bris de promesse pour avoir communiqué avec cette femme alors que cela lui était interdit. L'homme de 21 ans était accusé de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions corporelles alors que la mère, âgée de 20 ans, avait pour sa part été accusée d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de son enfant. La petite fille avait notamment les deux tibias fracturés, des égratignures et des ecchymoses au visage, puisqu'il s'agissait de son deuxième enfant, effectivement. Un mot encore pour vous faire part d'une bonne nouvelle, puisque le quotidien de Chicoutimi nous apprend qu'un registre sera créé pour identifier tous les porteurs de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Registre qui devrait permettre, un, de servir de base de recherche aux chercheurs, donc, et aussi d'intéresser l'industrie pharmaceutique en montrant que ce n'est pas un phénomène si isolé que ça. Et voilà qui termine pour la presse régionale. On se rejoint dans quelques instants autour de l'actualité culturelle. Thank you.
J'avance comme une traînée d'anciens wagons, sans provenance, sans destination. M'envoie pas vers toi, non, puis va-t'en pas chercher de raison. Perché dans le décor, ton hamster en dérail, le cœur à moitié mort, sur le bord des rails. Gare au locomotivé qui s'éveille et se pointe à ta ligne d'horizon.
C'était Alan Hurd et sa chanson Embarques-tu.
Culture, et on commence par une entrevue de Maxime Demers dans le Journal de Montréal, entrevue que lui a accordée Gilbert Sicotte, et le titre de l'article en dit long, J'ai tourné la page. Après avoir vécu des mois difficiles à cause de son congédiement du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Gilbert Sicotte est prêt à revenir au cinéma. En plus de tenir la vedette du film Identité, qui prend l'affiche début juin, l'acteur jouera cet été aux côtés d'André Lachapelle dans une adaptation cinématographique du roman Il pleuvait des oiseaux. C'est un Gilbert Sicotte souriant et de bonne humeur qu'on a rencontré jeudi à l'occasion de la sortie prochaine du film québécois Identité. Si seulement 3 mois ont passé depuis qu'il a été remercié du conservatoire après y avoir enseigné pendant 30 ans, l'acteur a visiblement le désir de passer à autre chose, même si les blessures semblent encore douloureuses. J'ai tourné la page, mais ça a été un hiver très difficile, s'est contenté de répondre Sicotte en changeant de ton quand on a abordé le sujet avec lui en entrevue. Questionné ensuite à savoir s'il avait craint que cette histoire nuise à sa carrière d'acteur, Sicotte a simplement répliqué qu'il ne voulait pas penser à cela et qu'il souhaitait changer de sujet. Rappelons que c'est un reportage de Radio-Canada diffusé en novembre dernier qui a déclenché le scandale. Le reportage de 8 minutes, qui a fait l'objet de plus d'une centaine de plaintes de téléspectateurs, donnait la parole à d'anciens élèves de Gilbert Sicotte, accusant le réputé acteur et professeur de dénigrement, de violence verbale et de harcèlement psychologique. Après avoir suspendu temporairement M. Sicotte afin de mener sa propre enquête, le conservatoire a finalement décidé de mettre fin au contrat de travail de son professeur en février dernier. La nouvelle a fortement ébranlé le comédien de 70 ans, qui n'a pas compris pourquoi la direction du conservatoire avait agi de la sorte après lui avoir fait savoir pendant toutes ces années qu'elle appréciait son enseignement. Préférant aujourd'hui laisser cette histoire derrière lui, Gilbert Sicotte regarde maintenant devant lui. On le verra bientôt dans le film Identité, un drame criminel dans lequel il joue aux côtés de Samuel Thivierge et de l'acteur français Sami Nasseri, qu'on a vu dans Taxi. Puis, plus tard cet été, il devrait tourner avec André Lachapelle dans le film « Il pleuvait des oiseaux », une adaptation cinématographique du roman du même titre qui sera réalisé par la cinéaste Louise Archambault, connue pour Gabriel. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est un super beau projet, confie l'acteur à propos d'Il pleuvait des oiseaux. Ce sera un film troublant et très impliquant. Iris Gagnon-Paradis signe quant à elle un texte intitulé « Vendetta des grands ballets, la mafia sur pointe » et c'est assez étonnant comme récit pour un ballet. Avec ses magnifiques costumes sortis tout droit des années 50 et son univers inspiré de la mafia italienne venue s'installer aux États-Unis, le ballet narratif « Vendetta » risque de faire sensation. La chorégraphe acclamée Annabelle Lopez-Ochoa, qui signe cette création pour les grands ballets, a l'ambition d'offrir de nouvelles histoires aux aficionados du ballet classique. Vendetta, c'est d'abord l'histoire d'un parrain, Don Marello, Marcin Kaczorowski, et de sa fille Rosalia, Agnia Nesvitalo, qui devra lui succéder à la tête de la mafia. Et c'est donc un ballet résolument féministe. En ballet, la femme est toujours fragile, élégante. Je voulais donner un autre rôle à la danseuse classique, affirme la chorégraphe Annabelle Lopez-Ochoa. La presse a assisté à une répétition générale de la création et ce sera présenté au théâtre Maisonneuve, du 24 mai au 2 juin. Ce n'est pas souvent qu'on parle d'archéologie et de culture, et pourtant il y a lieu de s'inquiéter. Archéologie, les vestiges du site Quartier Robertval menacés, ce que rapporte Le Devoir. Les vestiges de la colonie éphémère fondée à l'embouchure de la rivière Cap-Rouge par l'explorateur Jacques Cartier en 1541 pourraient disparaître selon un groupe d'experts mandaté par la Commission de la capitale nationale du Québec. Le berceau de la Nouvelle-France est à la merci des marmottes et des intempéries, peut-on lire dans un rapport obtenu par Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Si aucune action ou mesure n'est prise, la disparition de ce patrimoine est assurée, écrivent les archéologues Gilles Sanson et Richard Fizet dans le document remis à la commission, propriétaire du site, en février dernier. En plus de creuser des tunnels au milieu des vestiges, des marmottes se sont régalées de charbon de bois provenant des restes des pièces de charpente du 16e siècle. Les ravages causés par les animaux fouisseurs et des facteurs climatiques ont fait disparaître près de 12 mètres cubes de sol. Aucun autre site archéologique au Québec ou ailleurs en Amérique et même en Europe ne peut suppléer à l'information perdue sur le site Quartier Robertval, soulignent les co-signataires de l'étude. Toute perte d'information diminue la capacité d'interprétation du site et de sa mise en valeur. Ainsi, chaque perte est irréversible. La ministre de la Culture, Marie Montpetit, a signé un avis de classement du site et de sa collection d'objets le 8 février dernier. Ce geste n'est pas associé à l'attribution d'une aide financière, explique la porte-parole du ministère, Annie Le Gruyec. Le ministère n'a pas reçu à ce jour de demande de la commission pour effectuer des interventions supplémentaires sur ce site. La commission rétorque avoir pris acte des recommandations du rapport sans son fisait. Les scénarios proposés au gouvernement ne peuvent toutefois être révélés, affirme la responsable des communications de la commission, Anne-Marie Gauthier. La décision pour l'avenir du site archéologique quartier Robertval n'est pas encore arrêtée. La rivière cachée dévie comme une rivière, c'est le titre de la critique du film de Jean-François Lesage publié dans Le Devoir. Certains films sont comme des poèmes. C'est le cas du plus récent de Jean-François Lesage qui, entre essais et documentaires, utilise une rivière lotie au creux d'une forêt dense à flanc de montagne comme une métaphore de l'existence. Elle suit son cours, en apparence immuable, mais changeante néanmoins. Comme les gens qui viennent s'y baigner, s'y confier. Des hommes et des femmes de tous âges, en couple ou non, ou qui l'ont déjà été mais ne le sont plus, des amis, chacun son tour, par pair ou en petit groupe, ils se posent sur la berge, certains après avoir plongé, s'être laissé flotter, s'être laissé porter. La rivière, elle est toujours là, elle est toujours pareille, mais son lit peut changer de place, relève à un moment une participante songeuse. De fait, en ce lieu où le murmure du courant et le bruissement du feuillage se meuvent en silence pour quiconque vient d'abandonner la frénésie du quotidien, l'esprit vagabonde, les langues se délient et la parole, à son tour, coule. Chacun arrive avec son questionnement, sa quête, son bilan. La sérénité absolue est-elle chose possible? L'amitié suffit-elle pour contrer le mal de vivre? Et l'amour? Peut-il être fusionnel sans qu'un des amants s'y perde? Peut-il survivre aux épreuves? À ce troisième enfant jamais conçu dont il ne voulait pas, mais elle, si? Autant d'enjeux, de préoccupations qui émergent sans intervention de la part de Jean-François Lesage, connu pour un amour d'été. Ce dernier intercale entre ses passages parlés des interludes contemplatifs, mettant en valeur toujours dans un esprit poétique et non de carte postale, la nature enchanteresse qui flanque la rivière du titre. Rivière dont le documentariste explore les sinuosités, attentif autant à ses ondes de calme qu'à ses ondes de bouillonnement. La progression narrative, car il y en a une, tient à ce que tout cela se déroule en l'espace de 24 heures. Le jour décroît, la lune succède au soleil, puis l'aube renaît, comme un espoir.
Si le loup m'avait vu,
C'était Lydia Kepinski et sa chanson 1er juin.
Il y a déjà très longtemps, dans une lointaine jeunesse, j'ai connu l'époque des téléphones à roulettes. Et je suis en train de me demander si un autre de mes grands apprentissages de la vie n'est pas en train de révéler mon âge. Je vous le dis tout de suite, je sais conduire manuel. Or, ça ne s'apprend presque plus que nous apprend Marc Allard dans Le Soleil. La conduite manuelle à l'agonie. Une photo d'une boîte de vitesse manuelle circule ces jours-ci sur Facebook avec la mention suivante « Antivol pour les milléniaux ». C'est une blague, bien sûr, mais elle n'est pas si loin de la réalité. Seulement 2% des apprentis conducteurs apprennent maintenant la conduite manuelle selon les données de l'Association des écoles de conduite du Québec, le plus important groupe de propriétaires d'écoles de conduite de la province. Il y a beaucoup d'écoles qui ont abandonné les véhicules à transmission manuelle parce qu'il n'y a pas assez de marché, dit Mark Thompson, directeur de l'association. C'est presque disparu aujourd'hui. Dans les 5 dernières années, ça a diminué de façon exponentielle, constate Stéphane Santerre, copropriétaire des 12 écoles de conduite technique dans la région de Québec, qui ne fait pas partie de l'association. On ne donne pratiquement plus de cours manuels. Pour la nouvelle génération de conducteurs, semble-t-il, trouver le point de friction, glisser les vitesses au bon moment et ne pas étouffer dans une côte sont des habiletés du passé. Alors que certains y voient un simple reflet du marché automobile, d'autres déplorent une perte de compétences et une certaine paresse associée à une génération dorlotée par l'automatisation. Allez, nouvelle très inquiétante. Ben, en fait, ce serait inquiétant si ça ne s'était pas produit au Massachusetts. Je vous donne le titre qui en lui-même est assez anxiogène. Il retrouve 26 tics sur son corps après une balade. De quoi dégoûter de la randonnée, même les plus motivés d'entre nous. Un Américain a retrouvé 26 tics éparpillés sur lui après s'être baladé en éclaireur dans un sentier du Wachusett Réservoir dans l'État du Massachusetts. Je suis habitué de marcher dans les bois et je suis habitué de trouver des tics sur mon corps, a expliqué Derek Lirange à Fox News. Mais en retrouver 26 sur lui, c'était incroyable, a poursuivi celui qui admet avoir été effrayé en constatant que plusieurs d'entre elles grimpaient sur la jambe de son pantalon. Le jeune homme était allé explorer le secteur avant la tenue d'une randonnée organisée jeudi par les jardins botaniques de Tower Hill à Boylston quand il a fait cette trouvaille plutôt dégoûtante. En raison de cette invasion de tics, les organisateurs de la marche ont pour leur part préféré l'annuler et la remettre à plus tard. Les amateurs de balades en nature sont invités à être vigilants face à la menace que représente la maladie de Lyme, transmise par ces insectes piqueurs. Il est conseillé de porter des pantalons et un haut à manches longues pour bien se protéger. Ceux qui possèdent des animaux domestiques doivent également garder l'œil ouvert pour déceler toute tique dans leur pelage. Et je vous rappelle que la tique est maintenant installée pour de bon dans le sud de la province. Bon, il s'en passe des choses à la Maison-Blanche depuis un an et demi, mais le truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que le terrain s'effondrerait. Ben, ça a commencé, semble-t-il, puisqu'une doline est apparue. Une doline, c'est quand il y a un vide qui se crée sous terre et soudain le sol s'enfonce dedans. Eh bien, il y a une doline qui est apparue devant la Maison-Blanche et ce trou, ben, il s'agrandit. Une doline a fait son apparition tout près de la Maison-Blanche et ce n'est pas une fake news. Évidemment, le trou, pas si béant, attire l'attention de certains journalistes parlementaires qui se sont tournés vers Twitter pour alerter la planète. Selon certains observateurs proches du dossier, le trou, qui est entouré d'une barrière de fortune fabriquée de rubans de police et de cônes oranges, semble grossir et ça nous vient du Journal de Montréal. Il y a une nouvelle qui tape dans à peu près tous les quotidiens de la province, puis j'ai essayé de ne pas vous la lire, mais bon, je vais vous la lire finalement. Je vais vous lire le texte de Laura Lévesque dans les pages du quotidien de Chicoutimi. AD4X récidive avec ses auditions 3X. Eh oui, le titre dit à peu près tout. AD4X a récidivé à Saguenay jeudi soir. La boîte de production pornographique a filmé ses fameuses auditions 3X derrière le bar L'Illusion de Chicoutimi. L'événement s'est tenu à quelques jours du procès qui oppose Saguenay à l'hôtel Plaza de l'Abbé qui a été l'hôte de la dernière soirée casting à l'automne dernier. Et rappelons-le, la ville a menacé AD4X de représailles si elle filmait son film sur le territoire municipal. Président de l'entreprise, André Delassène a tout de même décidé de tenir son événement en septembre dernier. L'entreprise n'a pas reçu de contravention, contrairement à l'établissement Bérivien. Au départ, on nous disait qu'on allait recevoir des contraventions, mais on n'a rien eu. C'est finalement l'établissement qui a reçu des contraventions. Pourtant, il n'y a rien d'illégal, a dénoncé le président d'AD4X dans une entrevue accordée au quotidien. Mais on voulait revenir rapidement au Saguenay pour un autre casting. On voulait montrer à la ville que finalement, on n'a pas peur, a-t-il ajouté en parlant des menaces de Saguenay. Le procès opposant Saguenay à l'hôtel Plaza se tiendra le 29 mai à la cour municipale. L'établissement est représenté par Maître Charles Quentin. Je suis très confiant dans ce dossier. À mon avis, il n'y a aucune infraction. On va se défendre ad nauseam, a insisté Maître Quentin, préférant garder son argumentaire pour la cour. André Delassène organise des soirées casting depuis près de 4 ans au Québec. Deux villes se sont opposées à ces événements. On se vante d'être une société ouverte, mais on est très puritain encore. Pourtant, c'est un besoin de base, et ce sont tous des gens majeurs et consentants. Si c'est bien encadré, on ne verra pas de jeune fille de 16 ans débarquer, commente le producteur, rêvant d'une société acceptant mieux l'industrie du sexe. Deux actrices pornographiques étaient à Chicoutimi jeudi pour les auditions qui se déroulaient dans un autobus modifié garé derrière le bar. Les hommes et les femmes étaient invités à participer à un court film qui sera ensuite diffusé sur le site de AD4X. L'événement se tenait toute la nuit. À 20h, un candidat a brisé la glace avec les deux jeunes femmes, Nicolas, 27 ans, a permis au quotidien d'assister à la scène qui était filmée dans le motorisé. Les apprentis vedettes porno peuvent mettre un masque pour tourner le film, mais le représentant en vente a accepté de montrer son visage. « Je suis un porc », a-t-il annoncé, visiblement confiant de faire la scène, mais après 15 minutes, il lui a été impossible de présenter les armes. Allez, un autre fait cocasse, inquiétant, je sais pas. Coupable d'avoir voulu tuer sa femme en sabotant son parachute. C'est un texte de l'agence France-Presse. Un sergent de l'armée britannique a été reconnu coupable jeudi d'avoir tenté d'assassiner sa femme à 2 reprises, en sabotant son parachute et en provoquant une fuite de gaz chez eux. Le trentenaire voulait éliminer sa femme de 42 ans pour commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. En mars 2015, Emile Sillyers avait ouvert le gaz au domicile de la famille où étaient présents ses deux jeunes enfants, espérant tuer sa femme, Victoria, mais la tentative avait échoué. Moins d'une semaine plus tard, son épouse avait miraculeusement survécu à une chute de 1200 mètres après une défaillance de son parachute. Elle avait souffert de graves blessures à la colonne vertébrale, à la jambe et aux côtes. Emile Sillyers, 38 ans, avait auparavant saboté le parachute aux toilettes de l'aérodrome. Il est apparu dès le début qu'une intervention humaine délibérée était la seule cause possible de la défaillance à la fois de la voile principale et de la voile de secours, a déclaré la procureure Amanda Sawitz lors du procès devant le tribunal de Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Tous les éléments ont montré qu'Emile Sillyers était l'homme qui avait le mobile et l'opportunité de commettre ces tentatives calculées d'assassiner sa femme, a-t-elle ajouté. Parachutiste expérimenté, la victime avait réussi à ralentir sa chute, son parachute de secours s'ouvrant partiellement peu de temps avant l'impact. Elle avait atterri dans la terre meuble d'un champ fraîchement labouré, ce qui avait aussi amorti le choc. La peine d'Emile Sillyers sera prononcée à une date ultérieure et je vous rappelle que l'homme est quand même un sergent des forces britanniques, sans dire long sur ses compétences de soldat aussi. « Ah, on va parler de salaire de patron. Tiens, Stan Cho, dans la presse, oui, signe un texte intitulé « Le patron moyen américain a gagné 11,7 millions en 2017 ». L'augmentation de salaire correspond à la hausse que les PDG ont reçue en 2016, selon les informations salariales, boursières et autres données de rémunération analysées par Equilar pour l'Associated Press. Dans l'ensemble de l'indice élargi Standard & Poor's 500, le PDG typique a fait 164 fois le salaire médian de ses employés, selon l'analyse d'Equilar. Étant donné que le gouvernement américain laisse aux entreprises une marge de manœuvre importante pour calculer la rémunération médiane de leurs travailleurs et que certaines industries dépendent fortement des travailleurs à temps partiel, les ratios de rémunération des PDG sont imparfaits et compliquent les comparaisons. Malgré une certaine résistance, le Congrès a forcé les entreprises à publier les données comme moyen de mettre en lumière l'inégalité des revenus. Chez Yum Brands, le salaire de 12,3 du PDG Greg Creed était 1358 fois plus élevé que la moyenne de ses salariés. C'est quand même inquiétant. Et ça, il s'agit des compagnies publiques, celles dont les chiffres sont disponibles. Et voilà qui termine cette édition du 25 mai 2018 du Quotidien des quotidiens. Je rends ce micro à sa titulaire dès lundi, Hélène, qui sera de retour. Donc, merci d'avoir été là. Merci aussi à Mathieu Tessier pour avoir assuré la mise en onde et avoir assumé les choix musicaux.